Bonjour Bernard Keller, merci d'être au rendez-vous et d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur nos ondes. Alors je vais rappeler pour ceux qui ne sauraient pas que vous avez été maire de Blagnac durant plus de 20 ans, que vous êtes actuellement élu régional, président de la commission industrie du conseil régional d'Occitanie. Vous êtes également vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'aéronautique et des espaces et plateformes aéroportuaires. Et puis j'ajoute à ce long CV que vous avez une longue carrière professionnelle dans la construction aéronautique, notamment à l'aérospatiale. Puis à Airbus. Autant dire que vous connaissez bien le sujet qui nous intéresse ce matin, la situation et l'avenir du secteur aéronautique dans notre région, qui suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations en ce moment. Pour prendre la mesure des enjeux, est-ce qu'on peut rappeler, peut-être pour commencer, combien d'emplois directs et indirects pèsent cette activité dans notre région?
Oui, bonjour à vous, Éric Dupri, à vous et à vos auditeurs. Le poids de l'aéronautique et de l'espace est considérable dans notre région. C'est en gros 160 000 emplois dans tout le Grand Sud-Ouest, avec le pôle de compétitivité d'ailleurs qui le chapeaute en quelque sorte. Ce sont 86 000 emplois en Occitanie, plus de 65 000 sur la métropole toulousaine. Et on pense que ce sont à peu près 40% de l'emploi industriel de toute l'Occitanie. Et vous venez de l'aborder. Quand on sait qu'un emploi industriel induit 3 emplois supplémentaires, ce sont 4 fois plus d'emplois qu'il faut comptabiliser. Un emploi industriel génère en général un emploi supplémentaire dans les services directs à la filière, l'ingénierie, l'aéronautique, le numérique, l'informatique par exemple. Un emploi supplémentaire dans ce que j'appellerais les services support d'ordre général, les ressources humaines, la finance, communication, et puis un emploi encore dans toutes les prestations générales, gardiennage, restauration, hôtellerie, bref, on pourrait comptabiliser quelques 340 000 emplois donc sur la seule Occitanie générés par l'aéronautique, plus de 250 000 sur la métropole toulousaine. Et si j'ajoute à cela que on a des grands champions qui identifient cette filière d'excellence, on en mesure le poids pas uniquement à la notoriété, mais aussi à la balance commerciale. Je pense à Airbus, je pense à Safran, à Dassault, à TR, Daher, pour ne citer que des constructeurs, mais ou des gros équipementiers. Mais on voit bien que cette filière est très importante pour la France entière, et quand je dis la France, d'ailleurs, je devrais dire l'Europe, puisqu'aujourd'hui, c'est un pôle d'excellence européen.
Alors, il y a 2 semaines environ, le président d'Airbus, Guillaume Faury, a envoyé une lettre aux 135 000 salariés de l'entreprise. Il y écrivait que la survie d'Airbus est en jeu si nous n'agissons pas maintenant. Je pense que beaucoup de gens, parmi ceux qui nous écoutent, peuvent avoir du mal à comprendre comment un géant comme Airbus, qui avait des carnets de commandes très bien remplis ces dernières années, qui avait même dépassé Boeing, qui était en pleine croissance, puisse se retrouver à jouer sa survie aussi rapidement après 2 mois de crise sanitaire. Il faut peut-être expliquer pourquoi on en est là d'une part et d'autre part comment il va falloir agir.
Alors, il a raison, Guillaume Faury. Enfin, il dit la survie est en jeu si on ne fait pas ce qu'il faut. Parce que la survie d'Airbus, effectivement, dépend de la survie des compagnies aériennes. La survie des compagnies aériennes dépend elle-même de la reprise du trafic passager. Trafic passager qui dépend de la maîtrise de la pandémie. Et là, c'est la grande inconnue. Alors, c'est vrai, Airbus, avec Boeing d'ailleurs, a surfé depuis maintenant une quinzaine d'années sur une croissance du trafic passager qui n'a pas cessé d'augmenter malgré la crise de 2008, hein, et malgré Powerade, qui n'a pas cessé d'augmenter en gros en moyenne de 5% par an, avec donc un carnet de commandes extrêmement rempli à près de 10 ans que beaucoup d'entreprises pourraient envier. Mais vu la situation des compagnies aériennes, eh bien ce carnet de commandes, alors il n'est pas gommé. Il n'est pas gommé, je crois que il faut quand même être attentif à cela. Les compagnies, évidemment, reportent leurs commandes aujourd'hui. Il y aura sans doute certaines annulations, mais on peut penser que dès que cette pandémie sera maîtrisée, eh bien, le trafic va reprendre. Alors Airbus, comme dit Guillaume Fleury, évidemment, doit calibrer son organisation en ce moment pour s'adapter à cette situation, tout en préservant ses capacités de reprise de l'activité. Ça passe par, malheureusement, du chômage partiel, par le gel des embauches. Ça passe aussi par le gel d'investissements de capacités importants. Et moi, j'ai une petite larme à l'œil, là. La requalification de la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380 pour accueillir la 321neo, c'est une bonne chose. Et évidemment, je fais partie de ceux qui espèrent que ça ne restera que un report momentané. Mais ce serait sinon compromettre aussi les capacités de notre région à répondre à la reprise de la commande sur cet avion qui est un avion succès.
Alors justement, puisque vous parlez des investissements qui étaient prévus, donc certains vont être annulés, certains vont être différés, mais beaucoup ont été faits avant la crise, donc il y a un endettement qui s'est constitué forcément, qui va affecter, qui va peser sur la trésorerie des entreprises, alors que les commandes, elles, ne vont pas repartir tout de suite. Est-ce que cet endettement ne pourrait pas provoquer, alors évidemment, chez Airbus, je pense qu'on peut absorber cette crise. En revanche, pour les sous-traitants de ce qu'on appelle les petits sous-traitants de troisième ou quatrième niveau, est-ce que ça ne peut pas mettre en jeu l'existence de ceux-ci ?
Alors, c'est un risque sur lequel il faut effectivement être très attentif. Les conséquences sur la supply chain de cette crise vont être d'autant plus considérables que la supply chain était, la chaîne de sous-traitance était déjà en tension avant la crise du Covid-19. Une tension du fait des montées en cadence d'Airbus qui avaient exigé de leur part de lourds investissements, avec par ailleurs associé à cela évidemment une réduction des coûts dus à l'effet volume sur leur production. On n'a pas beaucoup parlé, mais l'arrêt du 737 MAX de Boeing a aussi pas mal impacté notre filière, parce que elle n'est pas heureusement monosource, la filière, et donc les trésoreries, comme vous le faites remarquer, de ces entreprises de la filière ont été considérablement fragilisées. Les reports de charges, la baisse globale des charges, quand c'est pas la suppression de charges, va évidemment considérablement affecter toute la chaîne de la filière. Les rangs 1 vont faire preuve d'une meilleure résistance parce que ils sont adossés à un grand groupe, ils ont su diversifier leurs activités. Déjà, les rangs 2 et 3 vont sans doute être beaucoup plus touchés. On risque d'assister à une guerre des prix sur les charges restantes qui sont moindres. On risque aussi d'assister à une préférence d'approvisionnement à l'international sur des sources best cost, comme on dit, plutôt que à des productions locales. Ça, il faudra y être vigilant. Quant aux plus petites entreprises, il faut s'attendre malheureusement à ce qu'il y ait des morts. Ça, c'est malheureusement probable. Mais aussi, peut-être faut-il profiter, mais on y reviendra tout à l'heure peut-être, de cette situation, de cette crise, pour en profiter pour consolider la filière.
Oui, parce qu'il ne faudra pas que certains savoir-faire, certaines compétences partent à l'étranger, comme vous venez d'en parler.
Surtout pas.
Ouais, ça, c'est, je pense, un des risques principaux. Alors, le tableau peut paraître sombre comme ça, les perspectives de reprise paraissent aussi lointaines. On peut craindre que l'économie et l'emploi soient durablement affectés dans notre région. Cependant, quelles sont les ressources, les espoirs auxquels on peut se raccrocher ? Parce que tout de même, une entreprise comme Airbus a des fondations solides. On peut lire aussi d'un certain nombre de sous-traitants aéronautiques et régionaux.
Oui, mais je crois qu'il faut mettre à profit finalement cette situation pour préserver l'outil industriel et les compétences humaines de cette filière, qui est une filière d'excellence. Ça peut être l'occasion de renforcer encore, de consolider la filière autour d'acteurs nationaux, d'acteurs européens encore renforcés, en faire des véritables champions mondiaux, à l'exemple de ce que nous avons déjà, mais en tout cas de les conforter dans ce sens. C'est l'occasion de peut-être relocaliser territorialement certains approvisionnements qui nous rendent trop dépendants, ou qui rendent nos donneurs d'ordre trop dépendants, et on vient de l'évoquer. C'est l'occasion de moderniser les entreprises de la filière, les sous-traitants, plus de numérique, plus de robotisation, en gros plus d'agilité pour répondre, la rendre peut-être aussi un peu moins dépendante du transport aérien de passagers ou exclusivement de passagers, en renforçant les activités de fret, les charges marchandes. aller un peu plus vers les secteurs de la sécurité civile, les secteurs de la défense. Le spatial, qui dans le contexte me semble quand même beaucoup moins touché, moins affecté, doit être là aussi renforcé, conforté, notamment les différentes applications spatiales qui offrent des tas de perspectives de modernisation dans ce 21e siècle sur des métiers que l'on ne connaît pas encore, sur des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, etc. Bref, profiter de cette période pour renforcer les compétences de recherche et développement de cette filière pour aller vers une meilleure réponse à la transition énergétique, ce que font déjà les constructeurs Airbus, ATR, mais qu'on aille encore un petit peu plus loin aussi sur les matériaux, l'avion plus électrique, etc., de sorte que, d'une part, on préserve dans la période, non seulement on préserve des compétences, mais qu'on soit en situation, dès la reprise, d'aller encore plus loin dans la performance d'excellence pour que nos constructeurs et toute la filière restent des champions mondiaux et pas exclusivement européens.
Alors, comme je m'adresse à un élu, là, quel rôle peuvent jouer les institutions, les collectivités dans cette crise? Je pense à l'Union européenne, bien sûr, à l'État, qui a par exemple annoncé un plan de soutien de 7 milliards pour Air France, mais aussi sur notre territoire, au conseil régional et même aux métropoles, à celle de Montpellier et à celle de Toulouse. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Comment vous pouvez soutenir, accompagner les entreprises face à cette crise?
Je pense que c'est clair, le rôle du pouvoir politique est éminemment important dans cette industrie. L'industrie aérospatiale est une industrie de souveraineté technologique, de souveraineté économique. On voit le poids des ventes d'avions sur la balance commerciale de la France. Et c'est une industrie de souveraineté de défense nationale. Donc, c'est clair, ce que l'on doit attendre des pouvoirs politiques, c'est d'abord une volonté politique de soutien à cette filière, volonté de l'Europe, de la France. Quand on voit ce que sont les décisions que sont en train de prendre les États-Unis d'Amérique pour soutenir leurs constructeurs et leurs compagnies aériennes, quand on voit ce qu'est en train aussi de préparer la Chine, nous serions suicidaires, nous, Européens, de ne pas faire de même. Alors, je crois que les déclarations qui ont été faites tant par le gouvernement français en faveur d'Airbus, d'Air France, vous venez de l'évoquer, la Banque Centrale Européenne, la BPI, etc., on voit bien que cette volonté politique, notre gouvernement l'affiche fort et n'a pas l'intention de baisser les bras. Et je dois dire aussi qu'elle est fortement relayée, et très vite elle a été puissamment relayée par nos responsables territoriaux, à commencer par Carole Delga pour la région, Jean-Luc Moudenc pour Toulouse Métropole et Georges Méric pour le département, qui relaye cette volonté pour mettre en œuvre ici, territorialement, un véritable plan Marshall de soutien prioritaire à notre filière, accompagné de crédits significatifs, avec notamment un plan ADER qui va être renforcé, pour faire en sorte que l'on puisse mieux soutenir la trésorerie, notamment des PMI, des PME que l'on vient d'évoquer, qui sont sans doute les plus fragiles, offrir des capacités d'avance remboursables pour passer cette période. Des formations. Je pense que dans cette période où malheureusement on va être frappé de chômage partiel, mais parfois de chômage tout court, il est extrêmement important de faire en sorte que par la formation, on préserve les compétences, les ressources humaines qui font de notre secteur un secteur d'excellence, de sorte que sur tout ce pôle d'excellence de l'Aerospace Valley, eh bien, on garde notre avantage compétitif pour que dès la reprise, eh bien, nous soyons en capacité d'y répondre et de refaire en sorte que notre filière soit la locomotive industrielle qui tire toute une métropole, toutes nos métropoles et notre région.
Eh bien, merci beaucoup Bernard Keller d'avoir développé tous ces points pour nous, pour les auditeurs de Radio Présence. Merci pour cette discussion et votre regard sur les conséquences de la crise sanitaire mondiale dans le secteur de l'aéronautique. On ne va pas se le cacher, nous allons devant de difficultés dans notre région, mais on va garder l'espoir que l'on pourra assez rapidement les surmonter. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur Radio Présence et l'on fera certainement de nouveau appel à vous pour avoir des éclairages sur l'évolution de la situation.